Bonsoir. Merci Jean-Jacques Hublin pour cette invitation. Je vais effectivement enchaîner. Et le parti que j'ai pris pour présenter le développement de l'art, de ses expressions artistiques, plus exactement, puisqu'en fait il ne s'agit pas d'art au sens contemporain du terme, mais nous utiliserons et on continue à utiliser ce terme qui est pratique et qui regroupe une partie des pratiques que l'on retrouve dans l'art contemporain, dans l'art de toutes les époques historiques. Il s'agit surtout du développement très précoce d'une relation avec l'animal. Donc je vais essayer, je voudrais l'illustrer sous la forme de ces dialogues possibles qu'il y a eu avec l'animal, exprimer les différentes formes qu'ils ont pu prendre, puisque ces expressions paléolithiques de l'art sont extrêmement anciennes et ont marqué une longue période de la préhistoire. En gros, c'est avec l'arrivée des hommes modernes en Europe, aux alentours de 45 000 ans, leur installation, que va se développer la partie figurative, la représentation de l'animal. Et à partir de là, on a tendance à réduire à cette seule période l'étendue de cette longue période où il y a des expressions et des relations entre l'homme et l'animal qui touchent à ce grand mouvement de l'art. Il y a eu une grande quantité de raisons à cela. On ne va pas tellement s'intéresser à ces raisons. Je voudrais proposer une méthode pour faire rentrer, autant que faire se peut, dans qu'est-ce que c'est que ce dialogue, quelles formes ont pu prendre ces relations avec l'animal. Je retiendrai pour ce faire un certain nombre de principes. Et comme cet art est essentiellement visuel, a fait appel aux capacités visuelles de l'homme, mais aussi à son cerveau de sapiens, d'homme anatomiquement moderne, où la stimulation visuelle, la production visuelle n'est pas simple, n'est pas dissociée des autres sensations et du fonctionnement du cerveau. Une image comme celle-ci évoque chez vous tous quelque chose qui n'est pas que l'image, mais qui est votre culture, votre préparation, votre immersion et votre préparation à votre image. Et là ressort un certain nombre d'éléments, y compris ces sources-là peuvent être motrices, provenir de la mémoire, bref, sont assez complexes. Et on les voit en l'œuvre, à l'œuvre dans toute production artistique. Pour rappel, et ce ne sera pas l'objectif, mais l'art est particulièrement polysémique dans ses fonctions. On peut en énumérer un certain nombre qui ne sont pas exclusifs. Au-delà de la représentation naturaliste, au-delà de cette notion globale d'œuvre d'art, c'est surtout un signe. Donc il est essentiellement traité, cet art préhistorique, par une grande partie de ceux qui l'étudient d'un point de vue sémiologique, mais aussi, c'est très tôt, un élément de socialisation de l'espace vécu, parcouru, mais de l'espace domestique et aussi de l'espace corporel. C'est un objet matériel et technique qui se décrit, et les processus de description, d'études, les chaînes opératoires de production de l'art et ses formes sont particulièrement instructives pour nous renseigner sur l'investissement dont cette expression a été l'objet. Et enfin, c'est aussi un élément complexe de production sociale, de coproduction sociale, d'intersubjectivité entre individus, entre humains et non-humains, et d'éléments d'interaction au sein de la société elle-même. Donc, cet art paléolithique, je vais essayer et vous l'illustrer, puisqu'il est très visible, donc je vais essayer de le tenir en ce sens, à partir d'un certain nombre de cas. L'art préhistorique, étant visuel, a longtemps été traité comme un objet, donc souvent dissocié de son contexte de production. Or, précisément, s'il y a des objets qui pâtissent très sérieusement d'être dénués, séparés, isolés, mais ne plus être présentés dans leur contexte, ou en tout cas pensés, c'est précisément l'objet d'art. Et là, je vais essayer justement de le contextualiser. Ce faisant, je ne m'attacherai pas particulièrement, où je ne vais pas vous montrer toujours beaucoup d'objets isolés, mais plutôt des objets dans leur contexte, afin justement de voir la relation avec le milieu animal qu'ils ont toujours eu. C'est ce que font souvent et toujours les archéologues qui étudient l'art, en ayant un certain nombre de précautions pour savoir de quoi ils parlent lorsqu'il y a un objet visuel ou graphique qui est sur une paroi, quel est son statut exactement. Et donc, c'est précisément de ce dont il s'agit. Il y a sous-jacent à toute étude de l'art préhistorique la notion sous-jacente de l'esthétique et de ce qui a pu être beau. Or, qu'est-ce que le beau, justement, pour l'humain, sachant qu'effectivement, ces pratiques, ces éléments, ces documents archéologiques montrant un intérêt pour des catégories, des objets, du monde, du milieu naturel, sont fort anciennes. Et ces catégories, justement, de sensibilité, avec les sens dont dispose l'homme, pas seulement avec les animaux, il est effectivement partagé. On parle donc, et on a développé, les notions de protoculture, de paléoesthétique. Ce n'est pas le sujet, mais néanmoins, un certain nombre d'éléments qui vont contribuer à la définition de l'art, comme par exemple l'intérêt pour les colorants, n'est pas très récent, il est particulièrement ancien, et je veux rappeler qu'avant l'arrivée des hommes anatomiquement modernes en Europe, il y a ailleurs, et notamment sur le continent africain, de manière ancienne, par exemple à Blombos, à partir de 70-80 000 ans, un intérêt qui est tel que au sein d'habitats, en grotte, il y a une quantité non négligeable de fragments colorés d'ocre avec des traces d'utilisation qui sont trouvées dans les sites dans le Middle Stone Age africain. Mais on trouvera ça aussi dans l'espace européen avec les Néandertaliens qui, eux aussi, dans les sites à partir de 50, 60 000, les sites de, oui, en gros, 50, 60 000 ans, ont des grandes quantités de colorants, souvent rouges, mais quelquefois noirs, en fonction des régions, notamment des oxydes de manganèse, et c'est le cas dans le sud-ouest de la France. Donc c'est cet intérêt pour la matière colorante, on n'a pas l'usage, on a la fonction sur des matériaux semi-durs, mous, etc., mais on n'a pas de production, on peut imaginer. Et c'est ce qui a été publié, l'usage de couleurs sur des peaux, sur le corps humain lui-même, sur les vêtements. Avec cet usage-là, il y a un autre élément, un non-humain de la nature qui est le coquillage, qui est lui aussi retenu très tôt et qui marque et dont la présence est assez générale sur la totalité de l'espace africain à partir de plus de 200 000 ans. On les trouve quelquefois associés aux restes humains les mieux préservés, mais dans un certain nombre de sites d'habitat, là aussi, à partir des périodes que j'ai indiquées. Ce sont des coquillages et des coquilles marines récoltées. Aujourd'hui, on les voit fossiles, fanés, sans leur couleur originale, mais il faut imaginer effectivement les paramètres de couleur, de texture, de brillance, bref, ce qui ont motivé les intérêts esthétiques de la récolte de ces objets et de leur utilisation, vraisemblablement en termes d'identité individuelle pour marquer les corps, simplement peut-être du point de vue esthétique et pas forcément plus. Cette diffusion dans tout l'espace sud-africain mérite d'être rappelée, c'est des travaux de Derrick et Angel Wood qui ont marqué effectivement la connaissance et la reconnaissance de ces objets qui montrent sur la totalité de l'espace africain jusqu'à l'Afrique du Nord, effectivement, l'utilisation systématique, mais quelquefois ancienne, y compris au Proche-Orient, dans les contextes néandertaliens et moustériens de cet intérêt. On voit qu'il y a effectivement, dans l'interprétation de ces expressions artistiques, il y a un débat profond entre des capacités attribuées à l'homme anatomiquement moderne avec la production de cet art figuré, donc d'une externalisation de la figure, et d'autres pratiques qui sont celles de l'utilisation de matériaux peu ou pas transformés, mais pas la production d'images telle que nous l'avons et la connaissons à l'heure actuelle, et donc cette opposition entre Néandertal et Sapiens. Néanmoins, il y a, et je viens de vous le rappeler, mais il y en a d'autres, il y a déjà chez Néandertal des éléments importants de prise de conscience d'un sentiment esthétique à travers les objets de leur production, donc à travers leur production technique. Dans l'espace africain, je voulais aussi signaler l'utilisation, par exemple, de la coquille d'œuf d'autruche qui va être ornée de dessins géométriques dans des périodes déjà assez anciennes. Les plus anciennes sont de l'ordre de 70 000 ans. Et on retrouve l'utilisation, un peu comme la coquille, avec le test d'œuf d'autruche, du choix d'un matériau disponible dans l'environnement, facile à transporter et à transformer, et qui se déplace et qui est l'objet d'échange. Cette notion d'échange, de déplacement, d'objets colorés avec un sentiment esthétique, associé à une esthétique de la production, des éléments de morphologie, d'équilibre dimensionnel des objets, attitude allongée, symétrie de la production, position des tranchants, n'est pas neuve dans le paléolithique moyen. De l'espace d'Europe occidentale, cela est bien connu. Et les objets qui se déplacent, qui sont sélectionnés à plus longue distance, sont ceux justement qui ont les caractéristiques colorimétriques, de texture et en même temps de savoir-faire technique qui sont les plus aboutis dans un processus de production. Pour mémoire, une planche extraite d'une publication qui montre à quel point l'animal, très tôt, est aussi l'objet d'une attention, et là, d'un de ses premiers dialogues entre les populations et l'homme, avec ici, par exemple, dans le contexte de l'Europe occidentale, l'ensemble des diversités des dents, essentiellement de carnivores, mais aussi de quelques herbivores, qu'il doit y en avoir là-dedans, oui, ici, qui ont été utilisés dès le début du paléolithique supérieur pour l'ornementation, la réalisation de colliers ou la couture sur des vêtements. Et cela va se produire et se diffuser pendant tout le paléolithique supérieur avec la sélection formelle, le choix d'éléments particuliers de l'animal. Et à ces périodes-là, pour la parure, ce sont essentiellement les dents, ces éléments quasi minéraux particuliers de l'animal, mais qu'il faut quand même acquérir sur l'animal mort, mais en général toujours chassé et sélectionné de manière très intentionnelle. Donc il y a très tôt un choix particulier dans la recherche de ces éléments de l'animal. L'autre animal, effectivement, mais qui ne réagit peut-être pas de la même manière, c'est la diversité des coquilles marines qui sont utilisées dès le début du paléolithique supérieur. Percées, transformées, l'objet de chaînes de transformation, quelquefois sommaires, faire un trou dans une coquille, ce n'est pas réaliser un objet technique en os ou en silex, mais néanmoins, c'est la masse de ces objets qui nous donne l'information, l'intérêt pour leur couleur qu'il faut restituer, c'est pour ça que ceci est une planche de coquillage actuelle. Les coquillages fossiles et passés, eux, sont effectivement plus altérés et les couleurs ont disparu. Ce grand coquillage est une conque qui est trouvée aussi dans un site magdalénien pour dire que ce n'est pas les petits objets de parure qui sont utilisés, mais quelquefois des objets plus exceptionnels et pouvant avoir eu d'autres fonctions. Donc, ces catégories du monde animal tiennent une place importante dans la relation à l'animal. À cette période du paléolithique supérieur, on pourrait ne pas les intégrer dans l'histoire du développement artistique, dans l'expression artistique à proprement parler. Néanmoins, elles précèdent pendant de si longues périodes que, en introduction, je souhaitais quand même les mentionner et mentionner la place de cette parure, qu'elle soit en coquille ou qu'elle soit en dents ou en quelques éléments osseux du squelette particulièrement choisis. Et on les retrouvera tout au long du paléolithique. Ici, c'est un collier, par exemple, de coquillages fossiles, mais qui provient d'un habitat d'il y a 15 000 ans, mais de la vallée du Don, au centre de la plaine russe. Et là, il y a encore eu sélection, recherche de coquillages, alors qu'il n'y a pas de littoraux marins à disposition. On retrouvera plus longuement et tout au long du Paléolithique ces coquilles avec des usages variés. Alors toujours l'utilisation de la parure, mais aussi, je le signale ici, en objet technique. Et là, dans la grotte d'Altamira, dont l'âge magdalénien est de 14 000 ans, dans le nord de l'Espagne, la proximité des rivages atlantiques a induit la collecte assez importante de coquilles. Et ces coquilles ont des patelles, des patella vulgata, ont été largement utilisées pour transformer, recueillir, écraser ou contenir l'ocre rouge. Et sous le grand plafond d'Altamira, à l'entrée de cette grotte, de grandes quantités de ces objets ont été recueillis et provenant des fouilles d'Henri Breuil et d'Obermeyer des années 1924-1925, une étude récente de Cuenca et de ses collaborateurs a montré que ces patelles ont été largement utilisées pour racler l'ocre rouge, le transformer en poudre, et ce, depuis le Gravettien, donc entre 25 000 et 15 000 ans. Ce qui est important aussi, l'intérêt particulier de ces éléments. Ailleurs, et pas que dans le monde néandertalien ou sapiens, avec ce type humain distinct, que sont les Denisoviens de l'Europe centro-orientale, de l'Altaï, pour mémoire des planches issues de la couche 11 de Denisova, attribuées donc au Denisovien qui a été paléogénétiquement reconstitué, des objets qui attestent de l'intérêt ancien, aux alentours de 40 000 ans pour cette couche, pour cette transformation de l'animal. Il y a des choses à prendre et à laisser dans cette planche, mais que j'ai tenu à laisser intactes. Ainsi, ce bracelet de roche verte perforé, je sais que je ne suis pas le seul, Jean-Jacques aussi, Jean-Jacques Hublin doute de son appartenance à cet ensemble, mais il y a un nombre important d'objets en os, en ivoire, en coquille, transformés, y compris dans tous ces éléments de parure, qui est surprenant et qu'il faut certainement prendre en compte, y compris d'éléments d'œufs d'autruche. On retrouve aussi dans ces industries, de manière intéressante, les premiers poinçons et beaucoup d'éléments dont utilisés de manière apicale au sein d'outillages qui, par ailleurs, ne se différencient pas beaucoup de l'outillage moustérien des niveaux néandertaliens sous-jacents à cette période. Il s'agit, je le rappelle, mais vous avez dû en parler dans l'enseignement de Jean-Jacques Hublin, de la position des Denisoviens, dont je viens de vous présenter les éléments de la culture matérielle. Pour entrer vraiment dans le sujet, maintenant, de cette relation avec l'animal dont qu'il faut vraiment avoir en tête pour interpréter les éléments et les expressions artistiques, il faut rappeler que dans ce contexte de population dont vous venez de voir tout à l'heure un rappel de la densité démographique à échelle européenne, quelques milliers d'individus, il faut imaginer que certes, il y avait des groupes humains qui vivaient entre eux, mais l'environnement était un environnement animal. Les hommes vivaient au milieu des animaux, ils étaient des chasseurs-cueilleurs. Mais qu'est-ce que ça implique d'être chasseur-cueilleur ? Eh bien, ça implique plusieurs types de relations. La première, c'est de vivre avec et dans le corps de l'animal. Et je voudrais mettre un petit peu l'emphase là sur l'habitat en os de mammouth de l'espace centre-européen de la plaine russe. Endroit steppe où il y avait du mammouth. Il est évident qu'en Europe occidentale, il n'y avait pas de mammouth et qu'à ce moment-là, l'habitat était fait peut-être avec des végétaux et plutôt recouvert avec des peaux d'herbivores disponibles ici, peaux de mammouth, peaux certainement pas de mammouth, de chevaux, de rocs ou de rennes. Alors que là, habitat de Dobranichevka, habitat de Meserich, en Ukraine, ce sont effectivement des grandes quantités d'ossements qui sont utilisés pour des habitats plutôt de forme circulaire, Dobranichevka, ou je verrai après celui de Medzin ou Medzirich, habitat de 7-8 mètres de profondeur, semi-enterré. Et là, l'image de l'animal est plus ou moins, est certainement relativement présente dans l'environnement, et il y en a un grand nombre en Russie, de ces habitats très bien documentés et fort bien conservés. Fort bien conservés, puisqu'effectivement, conservés dans des lusses, leur milieu et leur état de conservation est meilleur que celui, en tout cas pour les ossements, que les petits fragments qui restent dans l'habitat utilisant du renne dans nos espaces. Ici, vous voyez ces volumineux ossements dont vous voyez bien les défenses ont résisté à l'érosion. Dans ces habitats, l'ossement de mammouth qui sert à l'édification de la paroi lui-même est déjà l'objet d'une ornementation ici de signes géométriques dans l'habitat de Medzin. Il y a des crânes aussi qui ont des systèmes de chevrons ou autres. Bref, l'ocre rouge utilise ces éléments dans l'habitat. Ce sont des objets qui sont trouvés près de la porte d'entrée. Et vous voyez, je ne peux pas résister à le plaisir de vous signaler et de vous montrer les reconstitutions que les peintres russes des années 50 ont reconstitué l'habitat de Dobranichevka, où vous voyez bien l'amas d'ossements écrasé et reconstitué. Ici c'est Medzin, et dans celui de Medzin, qui est daté de 13-14 000 ans à partir de la période actuelle, il y a aussi un grand nombre, il y a l'utilisation de l'ivoire. Donc ces populations vivent dans un habitat qui est fait avec un animal, et cet animal est ensuite transformé lui-même. Donc là, l'ivoire est omniprésent dans ces sites, avec à la fois, et c'est cela que je vais vous montrer, les représentations contextualisées, ces objets en ivoire qui représentent des silhouettes animales féminines. On dit silhouette féminine pour ces objets un petit peu allongés, ou cela, mais qui ressemblent en même temps à des oiseaux. Ça se regarde plutôt de manière verticale. Et vous avez ici l'idée gravée du triangle pubien qui permet d'orienter cette silhouette féminine. Et vous la voyez posée, qui ressemble effectivement à un oiseau. Et là, on rentre dans les transformations, l'imaginaire de ces chasseurs à travers, effectivement, le traitement de l'ivoire. Vivre dans l'animal, c'est aussi être vêtu au quotidien avec l'animal. Et ce vêtement, aux périodes du maximum glaciaire, c'est le cas lorsque apparaissent les premières aiguilles à chat. Comme par hasard, l'aiguille à chat n'existe pas au début du Paléolithique supérieur. Il y a des poinçons, il y a des objets qui permettent d'envisager le travail des peaux, des fourrures et la confection des vêtements. Mais pour avoir des vêtements étanches, protégeant surtout les enfants à ces périodes-là, l'aiguille à chat est un élément technologique qui assure effectivement quelque chose de particulier. Or, elle apparaît à 21 000 ans, au moment du dernier maximum glaciaire, un grand stress climatique à ce moment-là. Donc, resituer l'animal, c'est aussi imaginer des populations qui ne vivent que de l'animal, mais qui sont aussi vêtues avec cet animal et qui, de fait, par immersion, très jeunes, ont une sensibilisation complète et en contact avec l'animal, qui est prolongée par la totalité des éléments de leur culture matérielle, puisque à la même époque, on voit se développer de manière étonnante par rapport au Paléolithique supérieur, par exemple, les pointes de projectiles de chasse uniquement en os, faits à partir du bois de renne, qui deviennent bien plus nombreuses, avec des complexités d'emmanchement. Vous voyez, dans ces rainures, il y a des petites lamelles à dos qui rentrent à l'extérieur, et en même temps, l'esthétique des armatures qui se développe. Donc un sentiment esthétique global, mais lié à l'animal, parce que ce sont des objets de capture et de chasse de l'animal. Pour changer, on a vu le mammouth, on a vu là le renne et le bois de renne, des populations en Europe occidentale qui vivaient plutôt habillées et aux dépens du renne de manière générale. Dans ces populations de solutréenne d'il y a 21-22 000 ans d'Europe occidentale, si la vie est organisée autour des déplacements et la chasse des herbivores grégaires que sont les chevaux, les rennes et les bovidés vraisemblablement, le cheval tient une place particulière et le cheval sera utilisé comme support, matière première dans ses os, mais une attention particulière à l'osseoïde du cheval, qui est l'os qui est situé sous la langue, qui se présente sous forme de deux triangles assez allongés. L'osseoïde va être très tôt découpé, perforé, l'objet de pendeloques, décoré ou pas, et on va retrouver dans un espace qui va des Cantabres et jusqu'au au sud-ouest de la France, l'utilisation systématique, avec à peu près la même manière, de transformer cet élément de l'animal en pandologue. Donc là, un type d'une relation d'un groupe à un animal particulier, en l'occurrence le cheval. Il serait incomplet de ne pas parler aussi au niveau de cette influence, de cette relation avec l'animal. La place des instruments de musique est d'évoquer cette partie immatérielle, le chant, la danse, la musique. La musique, on dispose de quelques éléments que sont les flûtes, et ces flûtes sont faites justement en relation, comme par hasard, avec des animaux particuliers. Il y a peu de flûtes qui sont faites en ossements de mammifères. La plupart sont faites sur des os, sur des ossements d'oiseaux, sur les os longs des ailes ou quelquefois des pattes. Souvent, le cygne, le vautour, l'aigle sont utilisés. De la même manière, puisqu'on parle d'oiseaux, c'est dans ces objets en ivoire, l'utilisation de l'ivoire pour simuler en Sibérie, à Malta, systématiquement de grands nombres de pandologues évoquant la forme d'un oiseau, puisque le trou de perforation est ici, qui donne des colliers extrêmement esthétiques avec cette stylisation d'un animal en vol qui sont interprétés comme des oies. Je parle d'ivoire. J'ai parlé d'ivoire, je vous ai évoqué l'ivoire en tant qu'habitat, l'ivoire en tant que matière première. Je voudrais insister un peu sur ce que c'est que l'ivoire au paléolithique transformé. Ce n'est pas tout à fait l'ivoire de l'éléphant qui est dur, mais c'est un ivoire qui a déjà en partie séjourné dans le sol, des marécages, des endroits où on peut retrouver l'ossement l'ivoire, ou les accumulations le long des cours d'eau. Bref, un matériau qui se situe dans des états différents. Ce matériau va servir à produire une grande quantité de perles, de petites perles, dès le début du Paléolithique supérieur, faites à partir de baguettes, et des travaux ont très bien montré cette chaîne opératoire de fabrication, qui est assez simple, du moment qu'on a un petit peu d'ivoire. C'est aussi une utilisation et une exploitation très parcimonieuse de l'ivoire, de petites baguettes, pour produire de minuscules perles, qui sont très petites. Mais aussi, l'ivoire a servi à faire des sculptures, a été sculpté. Nous verrons un petit peu plus loin la réalisation de cette silhouette humaine, homme-lion dans une défense. Vous avez, au début du Paléolithique supérieur aussi, un certain nombre de petites statuettes que l'on peut tenir dans la poche, que l'on peut transporter, qui sont extrêmement polies, qui sont à la fois extrêmement naturaliste, mais aussi marqué d'un grand nombre de signes. Et aussi, vous voyez, ces bracelets extrêmement souples, ça aussi, c'est l'ivoire, c'est une matière qui est transformée. Je vais vous prendre l'illustration dans la double sépulture de Sungir, en Russie, qui est datée aux alentours de 30 000 ans, double sépulture particulièrement bien documentée, avec beaucoup d'objets en ivoire et de perles en ivoire, donc les perles à peu près de ce type-là. Qu'est-ce que c'est que l'ivoire en tant que matériau? C'est un matériau, justement, l'ivoire de mammouth, en partie fossilisé, qui est particulièrement intéressant. Donc, quelques diapositives brièvement passées font montrer une chaîne opératoire de production des grandes lances en ivoire qui accompagnaient les sépultures. Quand je dis grandes, elles font 1,80 m de longueur, mais comme vous le savez, les défenses sont courbées. Donc, quelle est leur chaîne opératoire? Et ces chaînes opératoires nous donnent des informations sur l'intentionnalité, mais aussi sur l'investissement de temps et l'ingéniosité qui est nécessaire à produire des objets. Et ça sera les mêmes chaînes opératoires que celles qui sont utilisées pour la production des objets d'art réellement figurés. Donc je vous l'illustre à travers des travaux de collègues russes qui se situent dans la chaîne des expérimentateurs russes de cette école de Gerasimov à Semenov, qui nous a nous-mêmes marqués et qui nous a permis de nous engager sur l'archéologie expérimentale, qui nous donne des éléments sur les relations techniques entre l'homme, son milieu, à travers les chaînes de réalisation. Voici la défense dans son contexte. C'est une défense de 2 mètres de long. La voici avant son traitement. C'est un objet qui pèse 35 kg. Le travail se fait avec des instruments en silex, en manchet la plupart du temps, ou à main nue, de manière à provoquer des rainures utilisant le fil de la défense et de dégager des longs éléments a priori courbes de la défense entière. le matériau étant relativement sec à l'intérieur, on le débite et on le dégage à l'aide de coins, jusqu'à l'obtention de ces longs éléments qui ensuite vont être... Il y a toujours l'utilisation de l'eau tout au long du processus. Il faut que cet objet ne devienne pas sec, mais reste humide. Et tant qu'il est humide, il est redressé, transformé, et finalement transformé sous la contrainte ou transformé aussi à chaud dans le sol. Et vous avez à la fin cette lance qui est terminée. Travail de Gena Giria à l'Institut d'archéologie de Saint-Pétersbourg. Donc l'ivoire, c'est à la fois un matériau très dur et compact pour sa partie à son centre et qui donnera des objets identiques à l'ivoire d'éléphant. Mais l'ivoire qui a aussi séjourné dans le sol et dans le permafrost avec l'interaction du gel et du dégel est un matériau souple, extrêmement souple et ductile. Et on peut faire des nœuds papillons avec une bande d'ivoire. Mais une fois celui-ci dur, il va devenir de l'ivoire, acquérir cette brillance et cette solidité. Et à partir de là, on a une partie des éléments du secret de travail de l'ivoire qui a dû être un matériau assez extraordinaire pour les paléolithiques. Ici, donc, même contexte, toujours dans le nord de la Russie, qu'est-ce qui se fait avec l'ivoire qui est trouvé au milieu d'un habitat en ossements de mammouth ? Le travail de l'ivoire a permis de produire ces objets comme ce bison que vous voyez à la fois de profil et de face en trois dimensions qui est réalisé sur l'ivoire. Sur de l'ivoire qui, à cette époque, à l'époque du travail, était beaucoup plus souple et facile à travailler, peut-être comme du bois qu'on peut l'imaginer quand on le voit sec dans les vitrines de musées. Cet objet qui provient de la Madeleine en Dordogne et qui a été attribué à une hyène, mais en fait qui est un bovidé, qui fait une dizaine de centimètres de long. On voit bien encore les coups de silex, le travail sur la matière et le mouvement de dégagement, comme si cet objet était à peu près avec la résistance ou la dureté d'un bois blanc, d'un morceau de bouleau, et qui n'est pas du tout celle de l'ivoire que l'objet va acquérir une fois séché et dur. C'est un crochet de propulseur, en fait, datant du Magdalénien. Je vais prendre un autre exemple de contextualisation et la situation d'un animal dans la grotte Chauvet. La grotte Chauvet date d'il y a 36 000 ans pour les premières utilisations de ces espaces, de ces parois et de son plus ancien art. Il y a dans la grotte Chauvet énormément d'ours. Précisément, les ours sont à cette situation, ainsi que le rappeler tout à l'heure et le mentionner Jean-Jacques Hublin dans la publication de Pacher et Stewart, qui ont d'ailleurs travaillé à Chauvet et qui ont vu ces amas d'ossements d'ours, c'est la période où l'ours des cavernes est encore présent et en pleine expansion dans l'espace européen et avant qu'il ne disparaisse vers 25 000 ans. Donc dans cette grotte où il y a les ours, comment aujourd'hui peut-on reconstituer la relation à l'animal et donc la production artistique ? Dans la grotte Chauvet, on a la chance, alors que dans beaucoup de sites, on doit utiliser un ensemble d'informations et différents sites pour savoir quelle est la relation entre les animaux de l'environnement et les animaux effectivement figurés. Dans la grotte Chauvet, il y a une partie il y a suffisamment d'ossements pour nous donner des informations. Bien entendu, c'est une caverne à ours, alors il y en a énormément. Il y a, malgré tout, au sein de tous ces ours de caverne, quand même un ours brun qui a pu être identifié. Cette identification ne se fait que sur le crâne et sur la morphologie du crâne, et notamment la forme du frontal, le raccord du frontal avec les omalaires. Vous voyez, il y a aussi du léopard, du chat, du loup, du cuon, du bouquetin, de la hyène, animaux qui sont rentrés là avec d'autres prédateurs en tant qu'alimentation. Et un certain nombre d'entre eux sont en leur place, bien entendu, le renard ou la hyène, ainsi que le bouquetin à l'entrée, sont à leur place logique. Mais voici, vous avez sur ce profil en noir les animaux qui sont présents en tant que vestiges paléontologiques. Et en rouge, ceux qui sont figurés. On voit donc qu'il y a un grand pic d'ours présents dans la grotte. Par contre, il y en a aussi des figurés, mais les autres espèces sont dans des relations autres. Donc, compte tenu de cela, et avec la diversité de solution technique et de figuration de l'animal. Et pour mémoire, je rappelle qu'à la grotte Chauvet, sur les parois molles, il y a énormément de gravures souples, fines, et ce n'est pas de la gravure sur paroi dure. Vous voyez, cette gravure est faite au doigt. Vous voyez, ce sont des empreintes digitales que vous avez ici. Par contre, là aussi, ici, par contre, c'est un instrument, puis du doigt à côté. Donc la paroi est extrêmement molle. L'animal est fait par l'humain de manière décontractée. À d'autres endroits, l'animal est fait... Ce que je vous présente là, ce n'est pas ce qui est le plus connu de la grotte Chauvet. Mais il y a de grands animaux, comme ces grands mammouths, qui font, là on est sur 6 mètres de long et 2 mètres de hauteur environ, qui sont raclés avec un instrument, un outil ou autre. Voici les animaux, tels que vous pouvez les imaginer à l'intérieur, vous voyez. Voilà, et ainsi de suite. Ailleurs, l'animal est extrêmement discret et dissimulé. Dans cet espace, qui est une salle qui fait 5 mètres de haut et 5 mètres de diamètre, il y a énormément de gravures sur les parois, des rhinocéros, des chevaux, des ours, des mammouths, tous tracés à la main, au doigt ou quelquefois à l'instrument, avec des structures de pierre. Il y a dans d'autres espaces l'animal qui est bien entendu figuré, mais figuré de manière déjà extrêmement stylisée. Vous voyez, c'est la silhouette d'un animal qui est peut-être un rhinocéros, mais il n'est fait ni avec un objet technique, ni avec une roche, mais directement avec le contact du corps. Et un art fait avec le contact du corps, fût-ce pour représenter un animal, a une signification psychologique et engage effectivement particulièrement l'auteur dans la réalisation et dans le contact avec la matière. On n'est pas dans la transformation, mais on en est dans l'usage du corps pour restituer l'animal. À d'autres endroits, l'animal est juste désigné dans la morphologie et dans le volume. C'est bien cela qui est le propre de l'art pariétal en grotte profonde. Et ailleurs, l'animal, comme ici, c'est juste un léger trait noir esquissant la silhouette de profil d'un mammouth superposé à une main positive. Ailleurs enfin, et c'est ce qui est peut-être le plus connu et qui est caricaturellement le plus reconnu de cet art abouti et assez exubérant de la grotte Chauvet, ce sont ces relations, cette expression naturaliste d'un art qui utilise le bestiaire et la faune de son époque, mais qui a ceci de particulier en ce début du Paléolithique supérieur, qu'il accorde une grande emphase à la représentation des visages, des têtes, des animaux, y compris des regards, ce qui est assez particulier et qui nous met peut-être sur la piste d'une relation un peu singulière, intersubjectivité entre humains et non-humains. On le retrouve dans un grand nombre d'autres figures. Ici, ce sont toujours des parois molles qui sont traitées à l'estompe avec un charbon de bois en tant que colorant. Quel est le statut de l'ours particulièrement? Et c'était de lui dont je voudrais vous présenter les éléments de contextualisation. Donc, les visiteurs et les utilisateurs de la grotte ont eu l'ours omniprésent et ont vu, comme nous aujourd'hui, l'ours sur le sol. Ils ne l'ont pas vu peut-être dans cet état d'altération, d'ossements totalement fossilisés. Les éléments que nous avons montrent qu'il y a des... Les chercheurs ont mis en évidence des connexions anatomiques entre les ossements, c'est-à-dire qu'il y avait encore des ligaments, de la peau, des tendons, les squelettes et les cadavres n'étaient pas totalement décomposés. Donc il y avait tous des états différents. L'animal, cependant, dans la grotte, y est représenté, figuré, à plusieurs endroits, pas très nombreux, et avec différentes techniques. Dessin noir, mais surtout dessin rouge. Ce qu'il y a de particulier, l'ours n'est jamais seul, il est toujours représenté par groupe de deux ou trois, il n'a jamais de regard, seul animal dans cet espace, dans cette période-là, où l'ours n'a pas de regard, alors que tous les autres animaux vont l'avoir. Connaissance particulière, mais aussi interprétation de l'animal, une panthère, un léopard au-dessous. Où est l'animal dans la grotte? Où est-il dessiné? Il n'est pas dessiné n'importe où, en fin de compte. Il n'est pas dans les grands panneaux, il est dans des anfractuosités et dans des zones singulières de la grotte, quelquefois difficiles d'accès. Il est aussi, par ailleurs, mis en scène et installé. Et là, ce n'est pas l'animal figuré, c'est simplement des crânes d'ours rassemblés. Il y en a un qui est installé sur un bloc, qui est préexisté, qui est là, mais vous voyez au premier plan d'autres crânes d'ours, et au final, dans cet espace-là, c'est 54 crânes d'ours qui sont rassemblés. voyez, il y en a peu autour. D'ailleurs, on soupçonne que c'est de ces espaces-là qu'ils ont été rassemblés. Alors que dans le reste de la grotte, on a des densités variables. S'il y en a peu dans la première partie, c'est simplement parce que le sol, la sédimentologie du sol a une autre histoire. Le sol ici n'est pas le sol original, il est déjà recouvert. Et par ailleurs, dans cette même grotte, tout au long de la cavité, de nombreux ossements d'ours sont manipulés, transformés, déplacés, changés de position, enlevés, mis ailleurs. On voit leur négatif. Donc, les chercheurs ont développé un raisonnement sur la manipulation de ces ours. Au final, l'ours est figuré et représenté où ? Ici, c'est une carte des difficultés de cheminement de la grotte. L'entrée de la grotte est en bas. Vous avez la grotte avec, en rouge, les massifs, les chaos, les massifs montagneux de la grotte. Et en bleu, les difficultés d'accès. Tout ce qui est en bleu sombre sont des zones plus, et en rouge sont des zones surbaissées et difficiles d'accès. En fait, l'ours est destiné essentiellement dans les zones surbaissées, là où il a pu vivre, où il a pu se recueillir, là où il a pu vivre. Et ce petit diverticule des ours, où il y a cet ours-là, c'est justement une de ces anfractuosités. On ne peut pas y rentrer soi-même. On peut aller voir, mais pas plus. Dans le même temps, dans cette grotte, il y a une relation singulière avec l'animal qui est certainement aussi à développer. C'est qu'à certains endroits, il n'y a pas que l'ours qui est mis en scène et qui est déplacé. Ici, par exemple, sur cet amas d'ossements, alors qu'il n'y a pas d'ossements de loup dans la grotte, mais qu'il y a énormément d'empreintes de loups et de canidés dans la cavité, il y a deux atlas, les deux vertèbres cervicales de deux loups différents qui sont ensemble, comme si elles avaient été attachées ensemble. Bref, ce que l'on perçoit de la relation animale devait être beaucoup plus complexe, l'objet de beaucoup de pratiques bien plus détaillées que ce que nous percevons aujourd'hui. Mais là, par exemple, ici, c'est un piétinement de loup dans un espace de nursery, et les grandes empreintes, ce sont des empreintes d'ours qui sont passées après. On a la chance dans cette grotte d'avoir une excellente conservation. Donc, qu'est-ce que cela implique au niveau de notre regard et de notre pratique ? Traditionnellement et classiquement, l'archéologie dans la grotte Chauvet a identifié des œuvres. 494 entités graphiques, 494 représentations, figurations, avec aussi les signes, dont 12 mains négatives, 20 ensembles de points figuratifs ou non, et un certain nombre de formes abstraites. Dans les espèces figurées viennent en tête les lions, les mammouths, les rhinocéros, les chevaux, etc. Il y a 17 ours tout de même, puis des aurochs, des compositions anthroposomorphes, de bœufs musqués, une chouette perchée là-haut, et des espèces animaux indéterminées pour des raisons de conservation. Mais ce que je viens de vous présenter, il y a aussi tout cela. Est-ce que, dans les expressions artistiques, le crâne d'ours installé, les ours manipulés, les ossements, les atlas de loups, ne sont-ils pas aussi des manipulations artistiques, esthétiques, qui méritent à figurer aussi dans l'interprétation, en termes de pratique et de transformation biosymbolique, si l'on veut, de cette période-là. Voilà comment on peut aujourd'hui regarder avec une emphase sur la relation animale. Il y a des signes, bien entendu, comme dans toute grotte. On peut se demander si ces signes, en accolade, à des endroits où on les voit au milieu d'un ensemble figuratif, ne sont pas aussi les signes en accolade de ces défenses de mammouth vues de face sur d'autres animaux. Voici les possibilités interprétatives. Bref, un détail de la relation avec l'animal. Un autre élément est que de l'entrée de la grotte jusqu'à la fin, les panneaux qui contiennent les œuvres sont de plus en plus complexes. Donc il y a une mise en scène intentionnelle, extrêmement claire, ici, dans ce site-là, qui a été utilisé que pendant une période relativement courte, donc qui n'a pas été pollué par d'autres cultures postérieures. On voit que les grands panneaux du fond contiennent des compositions très organisées des éléments qui, au début, sont plutôt disjoints et séparés. Et les panneaux du fond, ce sont ces grands ensembles où il y a jusqu'à 30 ou 40 œuvres associées. dans une de ces zones, dans la zone du fond, dans la salle terminale, au milieu des bisons et surtout de cette concentration de félins, il y a une scène sur un pendant rocheux qui a attiré l'attention et qui est constituée du bas d'un corps féminin, d'un bison et d'un lion. Pas forcément une représentation combinée d'un être mythologique utilisant les trois associés, mais peut-être une composition utilisant à la fois le bas d'un corps féminin tel qu'on le connaît sur les œuvres de l'époque, avec la Vénus de Philendorf ou celle de Locelle. Vous voyez que c'est exactement le même bas, puisqu'il y a les jambes et le triangle pubien qui sont représentés. Puis, après, l'utilisation du bison, comme la Vénus de Locelle a bien une corne de bovidée elle-même dans ce scénario. Donc, la relation particulière de ces œuvres ici doivent permettre de rentrer maintenant dans le cadre sémiologique que représente ce jeu formel d'utilisation systématique de l'animal, y compris dans la représentation humaine. On peut le voir avec, toujours contemporain de Chauvet, cet homme-lion de Hohenschanstadel du sud du Jura Souabe allemand, qui est daté des alentours de 40 000 ans, ou toutes ces œuvres où on a aussi l'humain qui n'est pas représenté que simplement humain comme à Lascaux, puisqu'il a des têtes d'oiseaux, un objet technique lui-même à tête d'oiseau à côté, un bison blessé à côté, ou bien plus tardivement dans le Magdalénien des Trois Frères, avec ces êtres interprétés comme des individus masqués, dits sorciers, dans ce contexte-là. Bref, l'animal est tellement omniprésent à cette période-là que l'humain lui-même n'existe pas en tant que tel, en tout cas pas figuré en tant que tel, et sauf exception, quelques rares portraits. L'animal lui-même, dans le milieu du paléolithique supérieur, rapidement va être associé à, non pas à d'autres animaux, comme c'était le cas à Chauvet, mais bien entendu, sur le plafond de la grotte de Lascaux, vous voyez, vous avez un cheval là, ce cheval qui est ici. Il n'a jamais eu d'avant-train, mais à la place de l'avant-train, il y a une grande accolade de points noirs, par exemple. Donc, les signes, un certain nombre d'éléments abstraits, quelquefois géométriques, viennent se superposer à l'animal, de la même manière qu'à Lascaux, par exemple, on va trouver une grande diversité aux alentours de 20 000 ans de signes associés à l'animal. L'animal peut être aussi mixte, emprunté à différents animaux, tels dans la dite licorne de la grotte de Lascaux, datée de 21 000 ans, où effectivement l'animal est produit d'un imaginaire ou le produit d'une histoire. Voici la scène du puits complète de la grotte de Lascaux, où cet homme à tête d'oiseau n'est pas dans une situation extrêmement naturelle. Il est dans la seule scène de chasse, de mort et de prédation qui nous soit livrée du paléolithique supérieur, si ce n'est les animaux percés de flèches, et qui sous-entend à ce moment-là qu'on tient que le discours, que la flèche représente effectivement cette arme, alors qu'ici on a bien effectivement l'arme et les dégâts avec l'éventration de l'animal. Dans d'autres endroits du paléolithique et de ces grottes profondes, un art plus secret, plus discret, dans les zones profondes est aussi rencontré. On pourrait le développer, c'est celui des modelages sur argile qui ont été bien plus présents et abondants que nous ne saurions l'estimer aujourd'hui parce qu'ils sont très fragiles et très peu ont été conservés. Et au Touc d'Audubert, il y avait cet ensemble de deux très beaux bisons qui sont encore excellemment conservés et d'un autre dessiné sur le sol dans un espace qui a vu par ailleurs un certain nombre de rituels particuliers, de pratiques humaines, puisque c'est juste en contrebas de cet espace où sont les ours que se situe une salle dite des talons, où toutes les empreintes humaines ne sont exclusivement que des talons et la présence de restes de serpents. La notion du temps pour apprécier la valeur de ces œuvres et leur instantané, leur synchronie, si vous voulez, est un gros problème. Donc on a tendance en temps à considérer le temps de manière abstraite et à dire à Chauvet, on a des œuvres de telle période, à Lascaux, telle autre, à Agnon de 14 000 ans, à Altamirand de 13 500. Mais à certains endroits, on voit et on a des informations, on peut obtenir des informations dans la transformation successive d'un certain nombre d'œuvres qui montrent que des standards de regard, de pratiques culturelles ont pu changer au cours du temps. Ici, il y a un panneau où l'on voit que d'abord il y a eu des tracés, puis un jeune renne dessiné, puis des mammouths qui se sont superposés avec des petites silhouettes de mammouth, et il a été lui-même raclé, et avant le panneau était attouché. On peut voir donc dans un certain nombre de cas l'histoire de l'œuvre. Plus significativement peut-être dans ce panneau de Lascaux, sur cette paroi il y a eu deux vaches rouges. Puis à un moment donné, à une période où les bovidés noirs sont intervenus, à Lascaux, les bovidés noirs ont été systématiquement superposés aux vaches rouges au point de les dissimuler complètement et d'avoir que les pattes qui passent. Et enfin, quatre têtes de bovidés jaunes superposées par-dessus. À un autre endroit de la même grotte, on a le même phénomène, c'est-à-dire sur une frise de chevaux ocre et rouge, un grand bovidé noir a été superposé, repris plusieurs fois pour englober, dissimuler certains chevaux. Donc dans ces cas-là, on a permanence, on a l'appréciation d'un temps assez long, mais aussi l'appréciation d'une stabilité culturelle et d'une permanence d'interprétation, alors que vraisemblablement, selon nos avis ou les avis des chercheurs, il y a plutôt quelques milliers d'années, ou plutôt des centaines d'années entre. Donc cette stabilité culturelle est un des éléments importants. N'empêche que si on confronte à certains moments, dans le sud-ouest, dans le sud de la France, par exemple, notre connaissance de la culture, du développement de la culture matérielle, des industries lithiques de l'Orignacien, avec un certain nombre de grands foyers, de traditions ou d'aires géographiques telles qu'elles sont ici, sur ces figures, rassemblant des groupes de sites ayant des pratiques techniques dans la manière de transformer la matière et notamment de tailler le silex, avec des manières de représenter, de choisir les formes, de sélectionner les thématiques représentées de l'animal, à ce moment-là, on arrive à faire coller avec chacun de ces ensembles, ou certains d'entre eux, des regroupements stylistiques. Et ainsi, par exemple, l'ensemble d'œuvres du Jura Souabe, orignacien, est assez proche, à période égale, de celle du sud-ouest, du sud de la vallée du Rhône, mais il n'y avait que la vallée du Rhône, du passé du Rhône au Rhin à peu près, pour aller du Jura Souabe à la grotte Chauvet. C'est cela que j'essaie de dire. Ailleurs, une autre grotte d'âge orignacien, comme la grotte de Roucadour, dans le Quercy, dans le Lot, présente, avec les mêmes espèces animales, une autre manière et un autre style, néanmoins apparenté à celui de la grotte Chauvet, toujours dans cette famille orignacienne, pour prendre quelques exemples. Et tout au long du Paléolithique, on va avoir ces exemples de régions qui ont des styles propres et qui cependant s'identifient. Ainsi, entre les Pyrénées françaises et les Cantabres et le Pays basque espagnol, on a un ensemble de sites qui partagent des conventions communes, des manières de représenter l'animal, de les choisir, en groupe, ou bien ici juste les deux exemples montrant comment représenter des bisons et comment représenter des chevaux dans deux aires culturelles différentes. Et cela, on peut le traiter avec un grand nombre d'autres sites. Je ne parlerai pas ici de Niaud, de Pechmer, mais pareil, ce sont des ensembles chronologiques, spatio-temporels, que l'on peut situer les uns par rapport aux autres. En contexte magdalénien, donc de cette période de la fin de cette période de développement de l'art paléolithique qui, avec le réchauffement du tardiglaciaire, va disparaître du fait de l'action combinée de l'ouverture des paysages, de la modification climatique et certainement aussi d'une démographie complètement différente. Qu'en est-il de l'art mobilier, de la figuration des œuvres, non plus sur les parois, mais plus particulièrement sur des objets. Donc là, il s'agit d'animal figuré sur l'animal. En l'occurrence, il s'agit sur des bois de cervidés, sur des bois de rennes précisément, de représentation. Et j'ai choisi des œuvres qu'on ne voit pas souvent en France, vous avez depuis un certain temps, les œuvres notamment de l'Espagne cantabrique, et précisément les œuvres du musée archéologique de Santander, qui, s'il en est, est un musée exceptionnel pour le plan, sur le plan de l'art préhistorique. Et on y voit des représentations de roc, qui est une thématique dans cette région, sur des bâtons percés en bois de renne. Le deuxième roc, vous ne le voyez pas, il est ici, mais même s'il est plus léger, c'est exactement le même. Donc là, on a le même thème traité dans une région, à des moments différents et dans des sites différents, pour montrer les échanges et les contacts qu'il y a à cette époque. Un autre exemple de contextualisation, la grotte de la Garma en Cantabrie, site découvert plus récemment que la grotte Chauvet, donc pas très ancien, mais en tout cas dans un état de conservation lui aussi très exceptionnel, puisque la grotte était entièrement fermée et découverte par des spéléologues. Voici l'art sur les parois, pour vous montrer que sur ces parois de calcaire gris, il y a des œuvres en rouge et en noir, qui sont datées des alentours de 14-15 000 ans pour certaines, 24-25 000 du Gravettien pour d'autres. Donc beaucoup de cervidés, de rocs, de chevaux et de boucotins représentés. Ici, ce sont des biches, des mains positives de ces périodes-là. Et surtout, en grotte, des sols et des niveaux dits d'occupation, peut-être pas d'habitat, mais des organisations de fonds de cabanes extrêmement bien structurées, de salles aménagées avec des blocs, des cloisons et autres. Bref, un aménagement et une occupation intense de l'espace souterrain. Est bien conservé, ce qui est assez rare. Et un grand nombre dans ces niveaux d'occupation, parmi la faune, les résidus de nourriture et l'outillage, les milliers de fragments d'os de cerf chassés et consommés, avec des traces d'utilisation et de décarnisation sur cet espace, des objets assez exceptionnels, mais très propres à ce site-là. Celui-ci, mais qui est aussi connu, c'est une phalange de roc avec un auroch figuré dessus. Le roc est traité en gravure profonde et en champ levé. Vous voyez, ici. Et voici le déroulé de l'auroch sur l'avant-dernière, sur la dernière phalange, juste avant l'ongle, avant le sabot de l'auroch. C'est particulier, on va retrouver cette thématique à plusieurs moments. Toujours dans la même galerie inférieure de la Garma, un cheval, que nos amis espagnols appellent le cheval souriant, et puis un ours utilisé en pendologue. Ce sont des petits objets, mais plus que tout, un grand objet qui est une lame d'os avec encore un bovidé représenté et entouré, comme si cette lame était figurée un poignard ou un objet. On retrouvera à plusieurs endroits cet objet. Ces objets ne sont connus guère que dans ce site, mais il y en a d'autres qui sont connus ailleurs, comme ce long crochet de propulseur. Et ce crochet de propulseur, c'est une patte de bovidé. Et ce thème de la patte de bovidé, on va le retrouver dans tout l'espace européen, puisque depuis la Sibérie, à Zaraïsk, le très beau bison que je vous présentais, il y a des pattes de bovidé représentées. Il y en a ici, par exemple, dans un autre site, Angle-sur-Anglin, que je vais vous présenter rapidement, il y a une attention particulière à la patte de bovidé. Et là, dans ce magdalénien de cette région, la patte de bovidé en elle-même et cette partie de l'animal sélectionnée qui se réfère à des mythes, à des éléments de tradition orale, à des pratiques. Il est probable que le traitement intensif à ces périodes-là de l'animal pour les extractions de matières premières, de tendons, mais aussi la cuisson, la consommation, le rôle du feu dans la transformation des matériaux, des tendons, est certainement omniprésent pour aboutir à ces lectures particulières. Donc sur un os d'oiseau de la grotte del Valle, il y a par exemple un thème qu'on va retrouver dans cette région, qui sont des frises de chevaux avec des poissons, associés à des poissons, vision saisonnière, puisque les poissons sont tantôt de type salmonidé, tantôt un peu plus allongés, de type anguille, comme ici. Dans cette région aussi, le passage de la stylisation de l'animal qui est de moins en moins naturaliste et de plus en plus stylisé, Ici, vous le voyez avec ces poissons, mais surtout ces représentations d'incisions qui sont des cornes de bouquetin qui sont très présentes dans les habitats, sur les parois des grottes, mais qui là sont vues de face et qui devient un décor systématique des armes et des sagaies. Les sagaies, donc les armes de chasse, sont très souvent ornées de ces profils de cornes de bouquetin vues de face. Toujours dans le Magdalénien, cette phase de la fin du Paléolithique supérieur avec un art très diversifié, au point que les premiers auteurs des années 50 ont parlé de la période d'âge d'or de l'art paléolithique, de la renaissance de l'art paléolithique, terminologie utilisée il y a 2 ans dans l'exposition du British Museum, où là, sur une paroi ornée, les animaux sont sculptés, grandeur nature, sur une 30 mètres de long, avec surtout essentiellement des bouquetins. Vous voyez les formes de bouquetins profondément sculptées sur la paroi. Donc un énorme travail. Là, une chaîne opératoire qui implique un investissement long dans un site qui est un lieu d'habitat et non pas une grotte sanctuaire profond, en dehors du monde, en dehors de la lumière, protégée, bref, dans le milieu souterrain. Non, là, on est à la lumière du jour, dans un site d'habitat, puisqu'il y a de l'habitat de longue durée, avec toutes les activités de la vie domestique qui sont documentées, et ces animaux. Et regardez le détail accordé justement à la représentation des pattes. Et un art qui est dominé par le bouquetin, donc une espèce animale, et des représentations de corps féminin, grandeur nature, statue. Voilà. Donc un art particulier. Très, très propre à cette région aussi, donc comme les autres exemples que je peux présenter qui peuvent être interprétés comme un régionalisme. Et dans la même région, présent aussi dans cet habitat-là, et c'est ça la contextualisation, un autre animal, pas figuré sur la paroi, pas figuré dans l'art mobilier, de la gravure sur incisive de jeune cheval. Quelquefois dans le gisement de la marche des chevaux un peu plus matures, puisque les incisives sont usées, mais à angle sur angle, c'est l'inverse, la marche et angle sur angle, on a effectivement ont été sélectionnées les dents de chevaux, de jeunes chevaux, de manière à conserver leur plicature au niveau de l'émail, et vous voyez que sur le pli de l'émail, de la dent de cheval, qui quand elle est grande est comme ceci, c'est un triangle pubien qui a été finement incisé sur l'émail. Et on retrouve ça que dans ces deux sites de cette région. Donc on a effectivement là, alors que l'animal n'est pas sur la paroi, mais dans la grotte de la Marche, il est représenté sur des plaquettes, qui est un art domestique où de nombreuses plaquettes ont été à de multiples reprises gravées. Donc vous voyez les singularités de tout cet art paléolithique qui est à différentes échelles. Toujours dans ces mêmes ensembles de sites dans cette région, dans la grotte de la Marche, il y a des figurations animales du type de celle-ci, mais il y a aussi des représentations humaines. Mais ces représentations humaines, vous voyez, elles ont toujours une tendance et elles attestent l'omniprésence ou la proximité de l'animal, sauf quelques exemples qui sont ces deux-là, alors qu'il y en a des dizaines qui représentent ces profils toujours animalisés. Toujours magdalénien, à la Madeleine, des scènes un petit peu exceptionnelles d'animaux très rares, comme un glouton, une tête d'ours, regardant avec curiosité la représentation d'un phallus devant sa bouche, etc. Du jeu, du ludique, des histoires éphémères. Mais cet art donc, du magdalénien particulier, c'est cette capacité à saisir et à représenter en 3 dimensions l'animal, ici provenant d'un même gisement, 3 représentations de bisons qui sont très voisines, proches, utilisant la morphologie disponible du bois de Rennes ici et de l'ivoire là pour un crochet de propulseur. On voit bien les thématiques, mais on voit surtout la pratique, la manière de représenter l'œil, le regard dans un groupe, alors que vraisemblablement ces œuvres ne sont pas forcément synchrones, mais le poids de la tradition culturelle dans l'expression artistique. Vous Voici le détail, mais je vous l'ai déjà présenté, de cet objet en ivoire où on voit bien les coups et qui est encore resté brut de travail de cette période finale et tardive de la fin du Magdalénien. Enfin, les œuvres extrêmement naturalistes et détaillées, déjà proches de nous peut-être, parce qu'elles évoquent, en tout cas pour moi, du néolithique saharien. Voilà pourquoi je me permets de faire cette remarque de la grotte de Teija, de cette file de roc. Et enfin, des œuvres qui vont réutiliser des thématiques. Vous voyez, dans cette petite pièce osseuse qui était une pendeloque et qui vient du gisement de Raymonden à Chancelade, en Dordogne, il y a l'équivalent d'un squelette ou d'une carcasse de bison dont la colonne vertébrale est représentée sous forme d'une arête de poisson, mais dont on voit justement les deux pattes avant, ressemblant aux pattes que nous avons vues, et les côtes sont des silhouettes humaines. On le retrouve sur d'autres grottes des Pyrénées avec une thématique biche, poisson, oiseau, et là on est dans la manipulation probable de mythologie, d'histoire récurrente comme sur ce l'os d'oiseau d'Elval, et on a un art qui est là, de manière très claire, proche de la tradition orale. De la même manière, on a vu avec toutes ces œuvres qu'il y a des œuvres qui sont largement vastes, monumentales, complexes, associant des foules de sujets représentés, comme ici à Chauvet, à Lascaux, à Niaud, à Altamira, que vous voyez, avec des sélections particulières, des mises en scène extrêmement visuelles, sélectionnées, préparées dans tout l'espace de la grotte. Donc d'un partage collectif, les études d'intervisibilité actuelles à la grotte Chauvet montrent que ce sont, pour ces grands panneaux, entre 15 et 20 individus, jusqu'à 30 qui peuvent séjourner devant, mais qu'il y a un seuil drastique et que des œuvres où il n'y a plus que deux ou trois personnes, à ce moment-là, ont un statut plus discret. Une grotte, une reconstitution à Marsoulas, un travail qui mérite attention, la reconstitution des fresques extrêmement fanées aujourd'hui de Marsoulas montre qu'il y avait un art extrêmement complexe de représentation de bisons et de chevaux associés à une grande sémiologie abstraite dont le sens nous échappe complètement, mais qui nous donne à voir ce qu'étaient ces œuvres, toujours pour celles de l'espace public et d'autres, comme sur les parois de l'abside de Lascaux, où vous pouvez peut-être distinguer des têtes de chevaux gravées parmi des milliers de traits. Pendant des générations, des personnes se sont succédées et ont gravé les unes sur les autres. Aujourd'hui, on a un palimpseste très difficile à distinguer et à démêler, mais c'est dans un seul espace de la grotte, ce n'est pas dans tous. De la même manière que ces ours sans regard sont dissimulés dans une cavité qui est totalement inaccessible au regard. Je veux dire, il faut vraiment la connaître pour y aller et on ne peut pas y séjourner à deux dans la situation actuelle, comme la scène du puits de Lascaux est à l'écart du passage et dans des endroits difficiles. On peut s'interroger d'ailleurs si une partie des objets qui sont décorés comme ces sagaies, cette sagaie qui représente un décor de poisson qui vient du Magdalénien de Cantabrie, n'ont pas été l'objet de décors qui n'ont pas été faits pour être vus. Et je voudrais prendre un exemple ethnologique, non pas pour une comparaison directe de l'ethnologie, mais pour un exemple qui m'a moi-même marqué, voulant étudier des figurations dont on a chez les populations de la côte ouest des États-Unis, chez les Quatiult de Colombie-Britannique, sur les armes qui servent, les têtes de harpon mobiles qui servent à chasser les animaux marins, il y a dans certains groupes des décors qui sont propres à une mythologie particulière de l'oiseau tonnerre et en relation avec l'orque, ce carnivore, avec son comportement carnivore. Et ces œuvres qui sont là sont connues dans la littérature et dans les traditions, faites pour ne pas être vues. Celle-ci est la seule et une des très rares des musées du Canada, du musée de Vancouver ou du musée d'anthropologie de Vancouver ou du musée de Victoria, où les conservateurs ont enlevé la gangue, la résine, qui sert à protéger la corde et la ligne. Donc on voit aujourd'hui les œuvres. Mais toute la littérature montre que ces œuvres ont été faites par les chasseurs qui ont le droit de reproduire leurs propres motifs, leur propre conception d'un mythe sur cette arme pour la rendre efficace, ou en tout cas pour lui donner, pour leur donner aussi à chaque chasseur la légitimité d'agir et de passer à l'action. Ces œuvres sont faites pour ne pas être vues à l'heure actuelle dans ces musées. Si vous voulez étudier ces objets, vous les voyez recouverts d'un drap et vous ne pouvez pas accéder à leur étude, il faut aller demander aux chasseurs ou à la famille et aux ayants droit le droit. On peut se demander si effectivement il n'y a pas dans ces œuvres, et notamment les œuvres qui sont sur les armes, qui sont une catégorie particulière d'art liée à un objet technique et à la fonction de l'objet, plus qu'à similaire, n'ont peut-être pas ce sens. Voilà le voyage que je voulais vous inviter à faire dans l'art paléolithique. Je vous remercie.